Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Bien sûr, il y a la jurisprudence de la Cour de cassation, mais il y a également la jurisprudence constitutionnelle qui est tout à fait fondamentale en matière d'Internet et de cybercriminalité, puisque le juge constitutionnel, on l'a vu ces dernières années, a vraiment été extrêmement vigilant pour préserver cet équilibre entre protection de l'ordre public et protection des libertés individuelles. Donc je donne tout de suite la parole à Madame Irène Bouadana, qui est co-directrice du master droit du numérique, administration entreprise.
Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs. La justice, qui est souvent le fidèle miroir de la société, doit rapidement s'adapter aux évolutions issues de la révolution numérique. En effet, le développement croissant des nouvelles technologies de l'information et de la communication a bouleversé les comportements humains et modifié nos repères spatio-temporels. La frontière entre la vie privée et l'espace public s'amenuise, tandis que de nouvelles notions apparaissent, qu'il s'agisse de l'identité numérique ou encore de l'émergence d'un droit à l'oubli numérique. Aussi, le juge, qu'il soit judiciaire, administratif ou constitutionnel, doit-il intégrer ces transformations pour élaborer une jurisprudence apte à répondre aux défis du monde numérique. Pour le juge constitutionnel, il s'agit d'appréhender ces évolutions et ces notions et de les concilier avec les libertés constitutionnellement garanties et la préservation de l'ordre public. En la matière, le rôle du juge constitutionnel est déterminant, puisque les avancées technologiques ont des répercussions précisément sur les libertés et l'ordre public. La société numérique conduit donc le juge constitutionnel à construire une jurisprudence intégrant les problèmes posés par les nouvelles technologies au regard de la conformité à la Constitution. La jurisprudence constitutionnelle semble avoir amorcé un tournant avec la décision du 10 juin 2009, dans laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté d'expression et de communication énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique la liberté d'accéder à Internet. Dans ce contexte, la lutte contre la cybercriminalité occupe désormais une place grandissante dans la jurisprudence constitutionnelle, eu égard aux recours qui ont été portés devant le juge de la conformité à la Constitution sur une période d'environ une décennie, ce qui n'est pas beaucoup. Le développement de la cybercriminalité a amené le juge constitutionnel à forger une jurisprudence tentant de concilier la protection de l'ordre public et les libertés. En matière de cybercriminalité, le juge constitutionnel a été amené à se prononcer tant au regard des infractions commises sur un réseau de communication au public en ligne qu'à l'égard des fichiers informatisés d'antécédents judiciaires. Je vais donc aborder tout d'abord la jurisprudence constitutionnelle en matière d'infractions commises sur un réseau de communication au public en ligne. Dans le cadre de la jurisprudence que le Conseil constitutionnel a développée sur les infractions commises sur un réseau électronique, il a eu à se prononcer d'une part sur le piratage des œuvres littéraires et artistiques et d'autre part sur la diffusion sur Internet de contenus à caractère illicite. Tout d'abord, en ce qui concerne le piratage des œuvres littéraires et artistiques, le juge constitutionnel a été amené à se prononcer sur la possibilité d'autoriser les sociétés de perception et de gestion de droits d'auteur à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatives aux informations, condamnations et mesures de sûreté. Cette possibilité a été ouverte par la loi du 6 août 2004, modifiant la loi bien connue du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui est, si on y réfléchit de près, peut-être l'une des premières lois en matière de cybercriminalité. Il faut à cet égard rappeler que la navigation et la communication sur Internet sont régies par le Code des postes et des télécommunications qui pose le principe général d'anonymisation et d'effacement des données de connexion. Ce principe connaît quelques exceptions qui sont encadrées. Il s'agit par exemple du droit des opérateurs de conserver de façon limitée certaines données techniques ou de mettre certaines informations à disposition de l'autorité judiciaire. Cependant, les données conservées ou traitées ne peuvent porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées. À l'égard des sociétés de perception des droits d'auteur, le juge constitutionnel a considéré dans sa décision du 29 juillet 2004 que la possibilité de mutualiser la lutte contre le piratage des œuvres en constituant des fichiers de données de connexion ne portait pas atteinte à l'exigence constitutionnelle du respect de la vie privée. Cette disposition est, selon le juge constitutionnel, destinée, je cite, à lutter contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau Internet. La protection de la propriété littéraire et artistique sur Internet a soulevé des débats animés qui témoignent de l'avènement d'une société numérique. En la matière, l'appréhension du dispositif de protection par le droit a donné lieu à un corpus de lois et de jurisprudence. À cet égard, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, la fameuse loi dite Hadopi 1. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a censuré toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la Commission de protection des droits de la Hadopi. Ces dispositions conféraient à cette commission des pouvoirs de sanction qui lui permettaient de restreindre ou d'empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Cette commission aurait donc été habilitée à restreindre la liberté d'expression et de communication d'une personne. Cette liberté étant garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que la loi ne pouvait pas conférer de tels pouvoirs à une autorité administrative afin de protéger les droits d'auteur, et ce, malgré les garanties visant à encadrer le prononcé des sanctions. La loi du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite cette fois Hadopi 2, vise à tirer les conséquences de la censure par le juge constitutionnel des dispositions de la loi du 12 juin 2009 précitée. Donc, l'article 1er de la loi Hadopi 2 porte sur les pouvoirs conférés aux membres de cette autorité. Ces derniers ont le pouvoir cette fois, non pas d'empêcher l'accès à Internet, mais de constater les faits susceptibles de constituer les infractions punies de la peine de suspension de l'accès à Internet. Tirant les conséquences de la jurisprudence qu'il a développée dans Hadopi 1, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. D'autres dispositions de la loi portent sur le recours à la procédure du juge unique et à l'instauration d'une procédure simplifiée pour juger les délits de contrefaçon commis sur Internet. Les requérants faisaient valoir que le principe d'égalité était méconnu par le fait de soumettre le délit de contrefaçon commis par Internet à des règles de procédure particulières. Le Conseil n'a pas retenu ces griefs en considérant que la loi déférée soumet à des règles communes tous les actes de contrefaçon commis par l'intermédiaire d'Internet. Cependant, concernant la possibilité pour le juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts par la victime, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur, en application de l'article 34 de la Constitution, de déterminer formellement les conditions de recevabilité de la demande de la victime. Le Conseil a donc considéré que le législateur avait méconnu sa compétence en renvoyant au décret le soin de préciser les droits respectifs de la victime dans le cadre de cette procédure. Il a donc censuré cette disposition pour incompétence négative. En outre, la loi Hadopi 2 instaure une peine complémentaire délictuelle de suspension de l'accès à Internet. Le Conseil constitutionnel a validé cette disposition qui ne méconnaît ni le principe de nécessité des peines, ni le principe d'égalité devant la loi, et ne révèle pas de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. La jurisprudence constitutionnelle s'est aussi développée à l'égard des sites Internet diffusant des contenus illicites. La lutte contre la diffusion de contenus illicites s'est renforcée dans le cadre de la LOPCI 2. par l'interdiction d'accès à un site contenant des images ou représentations à caractère pédopornographique. Auparavant, un dispositif de lutte contre les contenus illicites sur Internet avait été mis en place par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Conseil constitutionnel a eu à connaître cette disposition. Les hébergeurs et les fournisseurs d'accès à Internet n'ont pas l'obligation de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites. Ce dispositif ne permettait donc pas de faire fermer un site diffusant des images à caractère illicite. Il ne permettait donc de faire fermer ce site que si le site était hébergé en France. Or, beaucoup de sites se livrant à la diffusion de contenus à caractère pédopornographique sont hébergés à l'étranger, ce qui rejoint ici la question de la gouvernance de l'Internet dont nous avons parlé largement aujourd'hui. La loi du 14 mars 2011, la LOPCI 2, vise à combler les insuffisances du dispositif de 2004 en empêchant l'accès à un site en raison de son caractère illicite. L'objectif consiste à lutter contre la diffusion de représentations à caractère pédopornographique. Dans sa décision de 2011, le Conseil constitutionnel a eu à examiner la conformité à la Constitution du dispositif de blocage de l'accès à certains sites Internet, l'objectif consistant à concilier la protection des mineurs avec l'atteinte à la liberté de communication. Le Conseil a rappelé dans un premier temps qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation identique à celui du Parlement et qu'il ne saurait donc rechercher si les objectifs que s'est assigné le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas inapproprié à l'objectif visé. Autrement dit, le Conseil constitutionnel recherche ici uniquement l'erreur manifeste d'appréciation. Et en l'espèce, il a jugé qu'en instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux services de communication au public en ligne, diffusant des images à caractère pédopornographique, le législateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil constitutionnel a souligné dans un second temps que les dispositions contestées confèrent uniquement à l'autorité administrative le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'Internet, l'accès à des services de communication au public en ligne. Et le Conseil est prudent en disant « lorsque et dans la mesure où il diffuse des images de pornographie infantile ». Il a également rappelé que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée et au regard de ces éléments, il a jugé que ces dispositions permettaient une conciliation non disproportionnée, comme il dit, entre d'une part l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et d'autre part la liberté de communication. Dans sa décision du 10 mars 2011 relative à la LOPCI 2, le Conseil constitutionnel a donc décidé de ne pas censurer le dispositif qui lui était présenté, contrairement à ce qu'il avait pu faire dans sa décision ADOPI 1. Dans cette décision ADOPI 1, le Conseil avait considéré que le pouvoir accordé à une autorité pour couper l'accès à Internet pouvait aller à l'encontre de la liberté d'expression et de communication. Au contraire, dans le cas de la LOPCI 2, il s'agit seulement d'interdire l'accès par les fournisseurs d'accès à Internet aux sites diffusant des images à caractère illicite, donc uniquement le contenu porteur d'images d'une telle nature. Outre le contrôle de constitutionnalité relatif aux infractions commises en ligne, le juge constitutionnel a développé sa jurisprudence à l'égard des fichiers informatisés d'antécédents judiciaires. En la matière, il s'est penché sur le sujet tant dans le cadre du contrôle a priori classique que dans le cadre du contrôle a posteriori qui est nouveau dans notre système juridique. Donc, tout d'abord, dans le cadre du contrôle a priori, la question de l'utilisation des données personnelles contenues dans des fichiers informatisés a été soumise à l'examen du juge constitutionnel en raison de l'importance des enjeux en cause à l'égard des libertés. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur cette question dans le cadre de la LOPCI 2, où il a eu l'occasion de rappeler une jurisprudence qu'il avait auparavant dégagée en 2003, à travers les réserves encadrant les fichiers d'antécédents judiciaires. Dans la décision du 10 mars 2011, il a repris ce considérant de principe rappelant ses réserves et il a déclaré conforme à la Constitution l'article 11 de la LOPCI 2 qui portait sur les fichiers d'antécédents judiciaires, après avoir relevé que le législateur a cette fois davantage encadré le recours à ces derniers. En effet, il est institué un magistrat référent pour la mise en œuvre et la mise à jour des traitements. Ce dernier a désormais l'obligation de répondre dans un délai d'un mois aux demandes d'effacement ou de rectification qui lui sont formulées. On voit ici ressurgir les préoccupations relatives au droit à l'oubli numérique, dimension nouvelle de la protection de la vie privée. Les préoccupations relatives à la protection de la vie privée ont conduit le législateur à prévoir que les données relatives aux personnes mises en cause et qui sont conservées dans les traitements après que la procédure s'est terminée comportent une mention interdisant leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative. Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que le législateur avait contribué par ces mesures à l'amélioration du contrôle des fichiers d'antécédents par l'autorité judiciaire. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel s'est penché également sur cette question dans le cadre du contrôle a posteriori, et non plus a priori, sur l'utilisation des données personnelles d'auteurs d'infractions contenues dans un fichier informatisé. Ainsi, dans une affaire particulièrement marquante, en raison des données sensibles qui étaient soumises au contrôle de constitutionnalité, les sages de la rue Montpensier ont eu à se prononcer sur la constitutionnalité du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Cette saisine présentait la particularité de s'opérer dans le cadre de la procédure de la question prière de constitutionnalité introduite récemment dans notre droit avec l'article 61-1 nouvel article 61-1 de notre Constitution à l'issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Conseil constitutionnel a donc été saisi par un requérant qui, au cours de sa garde à vue, avait été condamné pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique aux fins de rapprochement et d'enregistrement au fichier national des empreintes génétiques créé par une loi de 1998 qui, il faut le rappeler, n'avait pas été soumise au contrôle a priori devant le Conseil constitutionnel. Ce fichier est utilisé pour les investigations des magistrats, des officiers de police judiciaire. Depuis 1998, plusieurs lois ont contribué à étendre son champ d'application. Et au regard de l'importance des données, notamment pour les libertés et le droit à l'oubli, il faut souligner que la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui a été soumise au Conseil, permet de conserver dans le fichier, sur décision d'un officier de police judiciaire agissant d'office, ou à la demande du procureur, les empreintes relevées au cours des enquêtes. Une procédure d'effacement est cependant prévue. À cet égard, le juge constitutionnel a considéré que la fixation de la durée de conservation par voie de décret doit être proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions. La fixation de cette durée doit aussi s'adapter à l'âge de l'auteur de l'infraction. On voit donc ici une préoccupation tournée vers la spécificité de la délinquance des mineurs. La jurisprudence du Conseil constitutionnel révèle à travers cette décision la nécessité d'opérer en matière de conservation des empreintes génétiques dans un fichier automatisé une double modulation. D'une part, celle qui met en balance la nature ou la gravité de l'infraction et la fixation de la durée, et d'autre part, l'âge de l'auteur de l'infraction et la fixation d'une telle durée. Il apparaît alors que de cette façon, le juge constitutionnel tente de concilier la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la liberté individuelle qui sert de fondement au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a donc repris dans cette décision du 16 septembre 2010 le raisonnement qu'il avait adopté auparavant dans une décision de 2004 relative précisément à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il a jugé dans cette décision de 2004 que l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions d'auteurs de certaines infractions sexuelles qui visent à prévenir le renouvellement de ces infractions et à faciliter l'identification des auteurs ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police. Il a donc écarté le grief relatif à la méconnaissance du principe de nécessité des peines. En revanche, il a examiné si la disposition contestée était conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'il est toujours bon de rappeler. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Le Conseil constitutionnel a considéré en l'espèce que, compte tenu des garanties apportées par les conditions d'utilisation et de consultation de ce fichier et de l'attribution à l'autorité judiciaire du pouvoir d'inscription et de retrait des données nominatives, et qu'eu égard à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données nominatives dans le fichier, les dispositions contestées permettent de concilier le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public. Dès lors, il a jugé que ces dispositions ne portaient pas atteinte de façon excessive ni au respect de la vie privée, ni aux exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de 1789. En définitive, il apparaît que le respect des libertés constitutionnellement garanties, le droit à l'oubli numérique et la sauvegarde de l'ordre public apparaissent comme des piliers sur lesquels le juge constitutionnel construit pas à pas une jurisprudence destinée à répondre aux défis du cyberespace. Je vous remercie pour votre attention.